Bonjour et bienvenue dans ce 7e épisode de la Coquille Saint-Jacques de la baie de Saint-Brieuc, une bretonne au caractère bien trempé. Nous avons aujourd'hui le plaisir d'échanger avec Aurélie Connor, qui a débuté il y a quelques mois sa première campagne de pêche à la Coquille Saint-Jacques en baie de Saint-Brieuc, en tant que matelote. Aurélie travaillait déjà à la vente de la pêche de son conjoint, Jonathan Thomas, patron du Fury Braise, un navire coquillier de Saint-Quay-Portrieux dans les Côtes d'Armor. Elle se charge également de la communication et de l'administration. Depuis la rentrée 2023, elle suit une formation de matelote au lycée maritime de Paimpol et fait désormais partie de l'équipage. Bien qu'encore rares, les femmes matelotes comme Aurélie sont de plus en plus nombreuses. Elles représentent presque un tiers des élèves en formation continue au lycée maritime de Paimpol cette année, et la moitié d'entre elles sont conjointes de pêcheurs. Aurélie va nous raconter son parcours, sa motivation et son point de vue sur ce métier aussi prenant que fascinant. Aurélie, depuis combien de temps êtes-vous matelote et comment êtes-vous arrivée dans le métier ?
Alors, je suis matelote depuis... Enfin, j'ai commencé ma formation depuis le mois d'octobre. Je ne le suis pas encore officiellement. Ce sera dans 2 mois. J'ai un parcours assez varié. J'ai fait de la petite enfance, du secrétariat, du commerce. Je suis en couple depuis 10 ans avec Jonathan. On a commencé à vendre sa pêche depuis 4 ans, au moment du Covid. Les clients ont adopté tout de suite le concept de produits frais et accessibles. Et donc, du coup, depuis 4 ans, je vends sa pêche. Depuis 1 an, je m'occupe de l'administratif de l'armement. L'objectif de me former en tant que matelote, c'est surtout de venir en renfort à l'équipe pour les coquilles. Parce que, du coup, c'est un petit peu compliqué en ce moment. Il y a moins de poissons avec le parc éolien. Plus de charges. Donc, il faut vite trier, vite rentrer livrer et vite repartir au chalut après. Donc, voilà, je suis en renfort. Et puis, si jamais quelqu'un sera malade, je serai là au cas où.
Le métier de matelot a encore une image très masculine. Alors, comment arrivez-vous à vous faire une place ? Comment les choses évoluent-elles à ce niveau ?
Je dirais que la nouvelle génération est quand même plus ouverte. Après, il y a quand même une certaine appréhension, voire même une superstition. Encore, ouais, des femmes à bord. Et donc, ça reste un petit peu compliqué, mais je pense que pour les femmes qui veulent vraiment le faire, il faut pas lâcher, il faut vraiment insister. Il y a des femmes qui sont plus fortes physiquement que certains hommes. C'est pas mon cas. Mais je pense qu'une femme qui a vraiment la motivation peut faire sa place. Et par contre, je conseillerais qu'elle fasse des stages, voir vraiment les différents styles de pêche. Et voir vraiment si ça lui convient avant de se lancer, parce que après, une fois qu'on y est, c'est quand même plus difficile pour une femme qu'un homme de se faire embaucher. Moi, j'ai de la chance et on était 3 femmes de pêcheurs pour ma formation. Et je pense qu'on s'est rajouté cette pression supplémentaire de se sentir légitime dans le métier et en plus par rapport à nos conjoints, quoi. Donc, c'était pas évident, mais en même temps, c'est plus facile quand on connaît l'équipe.
Est-ce que vous avez quelques petites anecdotes qui vous ont marqué depuis que vous exercez le métier de matelote ?
Alors, ce qui m'a marqué, donc, c'est la formation incendie à Concarneau. On commence par la formation incendie sécurité. Et là, du coup, l'équipement était plus lourd que moi. Donc, c'était compliqué. Je suis claustro, donc il fallait être dans une salle complètement fermée, dans le noir, à éteindre vraiment un gros feu de gasoil. C'est hyper impressionnant. Donc ça, c'est vraiment un truc qui m'a marqué. J'étais fière de l'avoir fait. Et puis, comme anecdote, depuis ça, les gars m'appellent cambouis parce que j'avais une photo, j'étais toute noire. Et le mal de mer qui reste encore qui reste encore anecdotique et drôle pour l'équipage qui me charrie, un petit peu moins pour moi. Mais c'est pas tout le temps et on me dit que ça, avec ce métier qui rentre avec l'expérience, ça ira mieux. Donc j'attends.
Quel message souhaiteriez-vous transmettre aux femmes qui, comme vous, aimeraient, mais n'osent peut-être pas, se lancer dans le secteur de la pêche où les postes restent majoritairement occupés quand même par des hommes ?
Là c'est ça, c'est vraiment de rien lâcher, être sûr que c'est vraiment ce qu'elles veulent faire, parce que des fois on peut avoir une idée un petit peu tronquée de certains métiers. Vraiment faire plusieurs stages pour bien vérifier, et si c'est vraiment ça qui leur plaît, vraiment d'insister, si c'est leur rêve, de pas lâcher. Et surtout, en fait, de pas lâcher au début, parce que dans le métier de la pêche, c'est très dur au début, pour le corps, pour la tête, le rythme, tout ça.
Pouvez-vous nous raconter votre quotidien entre votre formation au lycée maritime de Paimpol et votre alternance au poste de matelote sur le Fury Braise ?
Donc là, c'est un petit peu plus cool parce que j'ai fini ma théorie. Ce qui était un petit peu vraiment compliqué, c'était au mois de décembre. Au mois de décembre, c'était la folie. On vendait toute notre pêche. Donc, il y avait une tonne d'œufs au mois de décembre, deux fois par semaine. Le téléphone sonnait du matin au soir, de 7h jusqu'à minuit, 1h des fois. Facebook, pareil. Et on était en cours pendant tout le mois de décembre. Donc là, c'était vraiment compliqué. J'étais en cours et je notais en même temps entre les pauses mes commandes. Je rappelais tout le monde le midi pendant que je mangeais au sel. Enfin, c'était vraiment compliqué. Donc j'ai pas pu réviser du tout. J'ai tout révisé au mois de janvier. Et c'est vrai que c'était compliqué. Il y a des ventes que j'ai pas pu faire. Donc Jonathan se retrouvait tout seul à gérer les ventes. C'est là qu'on voit que les femmes sont importantes. Hein, c'est un peu perdu. Donc voilà. Puis après, sinon, les coquilles et puis enchaîner avec les ventes.
Donc un quotidien très chargé. Pouvez-vous nous raconter un peu comment se déroule une session de pêche à la coquille Saint-Jacques de la baie de Saint-Brieuc, de l'embarquement jusqu'à la débarque? Est-ce un exercice physique intense, même périlleux parfois?
Ah ouais. Alors du coup, j'ai rejoint selon l'heure de la pêche, j'ai rejoint en bateau. On a à peu près 1 heure de route pour aller sur le secteur de pêche. On va au ralenti pour moins consommer de gasoil. Après, on a 45 minutes, pas une minute de plus. C'est bien contrôlé. Donc voilà, dès que le top départ est lancé, les gars lancent les dragues à l'eau. Moi, en tant que stagiaire, je suis interdite de manœuvre. S'il y a vraiment un risque, c'est à ce moment-là. C'est un petit peu plus dangereux. Donc, casque obligatoire pour les gars, ceinture pour le dos, tac-tac. C'est très carré. Parce qu'il faut qu'ils soient très rapides, hyper vigilants. Et il faut pas louper un trait, sinon on ne fait pas le quota. Donc voilà, au bout de 20 minutes, on fait 2 traits de 20 minutes à peu près. Entre 2 traits, je commence à trier. Chacun a son petit coin. On a fait refaire des piges par le forgeron, le 10-2, pour que nos coquilles fassent au minimum 10,5 cm. Pour proposer un meilleur produit à nos clients.
Donc la pige, c'est cet outil de mesure
voilà,
pour la coquille,
c'est ça. Voilà, c'est une sorte de petite règle en fait en métal. Donc on a rechangé, le forgeron a rechangé pour augmenter un petit peu pour que nos coquilles qu'on vend nous soient un petit peu plus grosses. Donc voilà, entre 2 traits, je trie. Deuxième trait, dès qu'on a fini 2e trait, on rentre aussi vite qu'on peut. Donc tout le monde trie et après je mets mes étiquettes sanitaires. On débarque les coquilles, le poisson de la nuit. Et souvent, on file directement à la vente où là, il y a déjà les premiers clients qui nous attendent avec leur petit sac. Et il y a déjà 10, voire l'hiver, il peut y avoir 30 personnes à nous attendre. Donc, faut vraiment que ce soit la course, qu'on soit carré et que ça aille vite, quoi.
Et pouvez-vous nous parler des spécificités de la coquille Saint-Jacques de la baie de Saint-Brieuc?
Alors, on dit qu'elle a un goût de noisette. Moi, je suis intolérante, donc forcément, je crois ce qu'on me dit. Et tous les amateurs, et j'ai un amateur à la maison aussi, donc lui qui y adore et je lui en cuisine pas mal. Et puis surtout, c'est celle qui est préférée des grands chefs cuistots. Donc, c'est vraiment notre petite perle dans la baie, quoi.
Pour conclure cet échange sur une note gourmande, comment Aurélie aimez-vous cuisiner la coquille Saint-Jacques de la baie de Saint-Brieuc? Plutôt crue, snackée? Auriez-vous une petite recette à nous livrer?
Oui, alors moi, j'en fais surtout à mon conjoint qui est un grand amateur. Une recette facile et vraiment aimée de tous la plupart du temps, c'est une fine tranche de chorizo, enfin plusieurs fines tranches de chorizo que vous faites suer dans la poêle et après, vous snackez les noix dedans qu'elles soient juste dorées. Et après, moi, j'entoure cette noix avec la fine tranche de chorizo, un petit pic et ça peut servir d'apéro, d'entrée ou alors avec du lard. Et sinon, on a pas mal de personnes qui les font en carpaccio. Tout simplement pour vraiment sentir le goût le plus naturel possible. Et on a aussi pas mal de recettes sur notre page Facebook. On a presque 400 recettes où les clients nous envoient leurs photos de leur assiette, en fait. Donc, ça valorise le produit et puis ça donne des idées pour changer un petit peu de recettes.
Merci beaucoup, Aurélie, de nous avoir embarqué avec vous dans votre quotidien de matelote en baie de Saint-Brieuc. Chers auditeurs, merci pour votre écoute. N'hésitez pas à vous abonner pour découvrir les autres épisodes de ce podcast. Très bonne journée et à très vite.